Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Ça m'intéresse et bel âge. Au programme, la suite de « Les 20 grandes énigmes de l'histoire ». Je veux écrire sans faute. Et des informations en ligne, 6 questions à se poser. Bonne écoute.
Les 20 grandes énigmes de l'histoire. Un texte de Cyril Azouvi et Thierry Lacour, paru en janvier 2023 dans le magazine Ça m'intéresse, le numéro 503. 10. Quel sens avait l'art préhistorique? Pourquoi peindre ou graver des figures dans des grottes? Et pourquoi le faire dans les recoins les plus inaccessibles où personne ne pouvait les voir? Pourquoi si peu de représentations humaines? Pourquoi ces symboles indéchiffrables, des points, des traits? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui hantent les préhistoriens. Les tentatives d'interprétation ont beau se succéder depuis la fin du 19e siècle, l'art pour l'art, le chamanisme, la chasse magique, le totémisme, les rituels de fécondité, aucune n'a encore acquis le statut d'explication définitive. 11. D'où vient l'écriture étrusque? La civilisation étrusque occupait, à l'âge du fer, entre 800 et 50 avant Jésus-Christ, une région appelée l'Étrurie, couvrant une partie du centre de l'Italie. Ce peuple a été le premier de la péninsule à laisser des traces écrites avant même les Romains. Il utilisait un système composé de lettres essentiellement dérivées d'un alphabet grec archaïque que les linguistes déchiffrent aujourd'hui sans difficulté. Nous parvenons à lire les textes les plus courts et nous en saisissons le sens global, assure l'étruscologue Gilles Van Hymes. Le vrai mystère repose sur l'origine du langage étrusque, car il ne peut être apparenté à aucune famille de langues vivantes ou mortes connues, hormis le rhétique, parlé à la même époque dans les Alpes, et un dialecte utilisé sur l'île grecque de Lemnos au VIe siècle avant notre ère. Une récente étude italienne basée sur le patrimoine génétique de 82 individus, couvrant deux millénaires, entre moins 800 et 1000 après Jésus-Christ, n'a pas apporté de réponse claire à la question de l'origine des Étrusques et de leur langue. 12. Le cheval de Troie a-t-il vraiment existé? Compté par Homère dans l'Iliade, la guerre de Troie n'a sans doute jamais eu lieu, mais en 1870, un archéologue allemand, Heinrich Schliemann, se persuade que le poète grec s'est inspiré, pour dépeindre Troie, d'une ville existante se trouvant sur le site archéologique d'Isarlik, dans l'actuelle Turquie. Les fouilles réalisées sur place révèlent effectivement les traces de plusieurs cités antiques, chacune construite sur les ruines de la précédente. 3-6, le sixième niveau de ruines en partant du bas, correspond à la cité troyenne décrite par le poète grec. Ce qui ne signifie pas que la légendaire construction de bois qui cachait des guerriers a bien existé, car, selon certains historiens, le cheval œuvré, laissé sur la plage, serait une figure poétique pour évoquer un navire. À cette époque, les marins grecs assimilaient le bateau à l'animal. D'autres pensent que l'édifice géant était un engin de siège destiné à enfoncer les portes de la cité. Aucune découverte ne valide à ce jour la ruse stratégique narrée par Homère. Je vous rappelle que vous écoutez « Les 20 grandes énigmes de l'histoire », un texte de Cyril Azouvi et Thierry Lacour, paru en janvier 2023 dans le magazine « Ça m'intéresse », le numéro 503. 13. Le suaire de Turin est-il le linceul du Christ? Depuis que ce drap de lin a été déposé en 1353 au monastère de Liré, en Champagne, Il fascine et divise. L'image de homme apparaissant sur l'étoffe et présentant des traces de blessures compatibles avec une crucifixion est-elle celle du Christ? Valider l'authenticité de cette relique nécessiterait que sa datation soit irréfutable, ce qui n'est pas le cas. En 2022, en se basant sur l'analyse des fibres au rayon X, une équipe italienne a conclu que le suaire était très probablement vieux d'environ 2000 ans. Mais elle précise que la sénescence de la cellulose du lin dépend des conditions de température et d'humidité dans lesquelles l'étoffe a été conservée. Or, si ce drap est apparu au XIVe siècle en France et entreposé depuis 1578 dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin en Italie, on ignore où il se trouvait auparavant. L'étude du suaire de Turin, ou Saint-Donologie, du latin « Saint-Don », linceul, a encore de beaux jours devant elle. 14. Qu'est-il arrivé à l'équipage du navire Mary Celeste? Vrai vaisseau fantôme, ce brick goélette américain est retrouvé abandonné au large des Açores le 4 décembre 1872, sans personne à bord. Le Mary Celeste, qui a quitté New York le 7 novembre et voguait vers l'Italie, transporte 1701 barils d'alcool dénaturé. La cargaison est presque intacte, la nourriture abondante, mais son gréement endommagé et sa cale partiellement inondée. Comme ni l'embarcation de sauvetage ni les documents du navire ne sont encore sur place, tout laisse à penser que ses occupants, le capitaine Benjamin Briggs, sa femme, sa fille et 7 marins, se sont précipitamment enfuis. Mutinerie? Crainte d'une explosion du bateau, tempête ou trombe d'eau, fraude à l'assurance, attaque de pirates, calmar géant. De nombreuses hypothèses ont été formulées. L'affaire a fait l'objet d'innombrables articles de presse, inspirés romans et films. Mais, 150 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à l'équipage du voilier. 15. Pourquoi le vol 370 de la Malaysia Airlines a-t-il disparu? La question taraude les familles des 239 passagers et membres d'équipage du Boeing 777 disparus dans la nuit du 7 au 8 mars 2014. L'appareil qui avait décollé de Kuala Lumpur, Malaisie, à destination de la Chine, s'est probablement abîmé en mer, mais pour quelle raison? Selon la journaliste française Florence de Changi, c'est tout sauf un mystère. On ne perd pas la trace d'un tel avion, surtout dans l'une des régions les plus surveillées de la planète par les deux premières puissances. Un ou plusieurs États détiendraient donc la vérité. La connaîtra-t-on un jour? 16. À quoi les alignements de Karnak servaient-ils? Qu'est-ce qui a pu inciter les hommes du Néolithique entre les 5e et 4e millénaires avant notre ère, à façonner, transporter et aligner des milliers de menhirs en Bretagne? Les hypothèses avancées jadis d'un immense temple ou d'un site astronomique ne trouvent plus d'écho dans la communauté scientifique. Mais le mystère de Karnak reste difficile à percer, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le lieu ne se présente plus sous sa forme originelle à cause des pillages, des restaurations hasardeuses et du recul du trait de côte. Selon les spécialistes, il devait compter 25 000 pierres dressées réparties sur 100 km² contre 4 000 environ aujourd'hui. Une modification du paysage brouille par ailleurs les pistes. La forêt de pins plantée au début du XXe siècle empêche de faire le lien visuel entre ces alignements de pierres et le tumulus Saint-Michel, situé à 1 km. Pour Serge Cassan, directeur de recherche au CNRS, ce lien est pourtant fondamental pour expliquer l'ensemble. Les alignements de pierres sont à considérer en rapport avec ce grand monument funéraire individuel. De même, les deux autres tumulus, Mané Er Croek et Toumiak, étaient accompagnés d'alignements. On a en outre retrouvé dans ces tertres des objets précieux, des haches en jade provenant des Alpes et des perles de varicite d'Andalousie, ce qui indique que les personnes inhumées là devait être hors du commun. Ces alignements de pierres, qui suivent les lignes de partage des eaux, peuvent donc être perçus comme une limite entre l'espace des morts et celui des vivants. 17. Quand le continent américain a-t-il été peuplé? La date du peuplement de l'Amérique par Homo sapiens ne cesse de reculer. Estimée vers 13 500 avant Jésus-Christ pendant longtemps, elle est régulièrement repoussée par des études génétiques et des fouilles archéologiques. En 2021, des traces de pas d'hominidés vieilles de 23 000 ans ont été découvertes au Nouveau-Mexique. L'année précédente, des scientifiques avaient mis au jour, dans une grotte du Mexique, des outils en pierre taillés remontant à environ 30 000 ans. Et des os de mastodontes trouvés en Californie qui pourraient avoir été brisés par des hominidés datent d'il y a 130 000 ans. Mais certains anthropologues réfutent le lien entre ces trouvailles et Homo sapiens. Antoine Lourdeau, spécialiste de la préhistoire américaine au Muséum national d'histoire naturelle, pense qu'une partie seulement de ces traces de présence humaine sont convaincantes. Par exemple, celle de la Serra da Capivara au Brésil. Un galet de quartz vieux de 30 000 ans semble bien avoir été taillé par la main de l'homme. Si c'est le cas, la question des voies d'entrée sur le continent américain se pose. En effet, lors du dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, le Canada était couvert d'une calotte de glace, rendant impossible le passage depuis la Béringie, le pont terrestre qui reliait la Sibérie à l'Alaska, durant les périodes glaciaires. Ce n'est pas tranché, estime le spécialiste. Plusieurs hypothèses existent, comme celle du cabotage, depuis la Béringie en longeant la côte pacifique. Mais il faut admettre que l'on en sait encore trop peu pour reconstituer l'histoire du peuplement du tout dernier continent foulé par l'homme. 18. D'où est venu le signal radio « Wow » Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear de l'Université de l'Ohio, États-Unis, capte pendant 72 secondes un puissant signal radio. Il est émis dans une fréquence très précise et provient d'un amas globulaire de la constellation du Sagittaire situé à 20 000 années-lumière. Stupéfait, l'astrophysicien qui l'identifie griffonne un « wow » au stylo rouge dans la marge du relevé d'observation. Ce bref commentaire est devenu le nom de la mystérieuse émission qui n'a plus jamais été détectée. Et reste inexpliqué, aucun phénomène naturel connu n'émet sur un spectre aussi étroit. Envisagée un temps, l'hypothèse d'une signature de comète a été battue en brèche par d'éminents radioastronomes. Ce qui laisse l'éventualité d'une intelligence extraterrestre. Depuis que les scientifiques recherchent une preuve de vie dans l'espace, WOW est le seul signal à s'être démarqué. En 2012, 35 ans après l'événement, le radiotélescope d'Arecibo, Porto Rico, a envoyé une réponse vers la constellation du Sagittaire. Son contenu? 10 000 messages Twitter. 19. Où Hannibal a-t-il traversé les Alpes? S'il est certain qu'en 2018 avant Jésus-Christ, lors de la Deuxième Guerre punique opposant Rome à Carthage, l'armée d'Hannibal Barca a traversé les Alpes pour gagner l'Italie, l'itinéraire reste inconnu. Écrit par les historiens Polybe et Tite-Live, les textes relatant cet épisode ne précisent pas où la cohorte de chevaux et d'éléphants a pu franchir le massif montagneux. Et l'archéologie n'a pas décelé de preuves matérielles attestant du passage d'une telle expédition. Plusieurs vallées alpines menant à l'Italie sont envisageables. La Tarentaise, la Maurienne, l'Ubaye, la haute vallée de la Durance. Si chacun des cols correspondants, Grand et Petit Saint-Bernard, Mont-Cenis, Traversette, Mont-Genèvre, à ses défenseurs, aucun ne fait consensus. En 2016, des chercheurs ont trouvé d'importantes quantités de crottins de cheval datant du 3e siècle avant notre ère dans les tourbières du col de la Traversette. Mais sans pouvoir prouver que ces dépôts provenaient bien de l'armée du général carthaginois. 20. Qui a conquis l'Everest pour la première fois? Officiellement, c'est le duo Edmund Hillary Tenzing Norgay qui a vaincu la plus haute montagne du monde en 1953. Deux dandys britanniques pourraient cependant les avoir précédés en 1924. George Mallory et Andrew Irvin sont morts lors de leur troisième tentative, mais personne ne sait s'ils ont réussi à atteindre leur but. Détail troublant. Sur le corps de Mallory, découvert en 1999 parfaitement conservé dans la glace à 500 mètres du sommet de l'Everest, on n'a pas retrouvé la photo de sa femme qu'il avait promis de déposer sur le toit du monde. Preuve qu'il a bien été jusque-là et qu'il y a déposé le cliché. C'était « Les 20 grandes énigmes de l'histoire », un texte de Cyril Azouvi et Thierry Lacour, paru en janvier 2023 dans le magazine « Ça m'intéresse », numéro 503.
Je veux écrire sans faute. Un texte de Pascal Forget, paru dans Bel Âge. Comment profiter pleinement des outils qui permettent de manier le clavier comme un pro et d'orthographier correctement à tout coup? Je corrige, tu corriges. Tous les logiciels de traitement de texte, Word, Google Docs, Pages ou encore LibreOffice, gratuit, sont dotés d'un correcteur automatique. La tablette et le téléphone intelligent en sont aussi équipés. Voilà qui nous simplifie la vie. Pour corriger toute faute soulignée en rouge, il suffit de faire un clic droit, de toucher le mot fautif ou de le survoler. Une suggestion de remplacement s'affichera que l'on n'aura qu'à approuver. Cela dit, les correcteurs ne sont pas infaillibles. Par exemple, ils ne peuvent pas comprendre tous les mots ni le sens de la phrase. Quand on utilise un traitement de texte à l'ordinateur, le logiciel québécois Antidote peut nous aider en détectant des erreurs de style et des anglicismes, en plus d'expliquer les corrections proposées. Cela dit, il vaut toujours mieux se relire, en particulier quand on écrit sur les réseaux sociaux. Bonne nouvelle toutefois, dans le cas d'un statut Facebook qu'on a publié avant de remarquer une faute, on peut le corriger en cliquant sur les trois petits points à droite et en sélectionnant l'option « Corriger ». Taper plus vite que son ombre. Taper un message à deux doigts peut être long. Une solution, apprendre le doigté avec un cours gratuit par Internet. Par exemple, typing.com. Le site est en anglais, mais on peut choisir le clavier canadien-français. C'est important pour bien reconnaître les frappes. À l'écran, la bonne façon de placer les mains est indiquée. On n'a ensuite qu'à taper les séquences de lettres affichées. Après quelques leçons, on écrira des mots, puis des phrases. Quelques minutes de pratique par jour suffisent pour taper sans avoir à regarder le clavier. Le site francophone taptouche.com offre des exercices gratuitement. Si on possède des bases de dactylo, on peut aussi se tourner vers typelit.io, typelit.io, qui fait pratiquer en tapant des œuvres classiques comme Alice au Pays des Merveilles. Améliorer son français. Sur Internet, il y a de nombreux sites pour apprendre et maîtriser toutes les règles qui nous donnent du fil à retordre. Voici quelques incontournables. Le conjugueur. Quand on veut savoir comment écrire 598 en lettres, ou conjuguer le verbe « asseoir » à la deuxième personne du pluriel au conditionnel présent. leconjugueur.lefigaro.fr. Le grand dictionnaire terminologique de l'OQLF, pour consulter des centaines de fiches linguistiques thématiques. granddictionnaire.com. Le site du Centre collégial de développement de matériel didactique, CCDMD, pour perfectionner son français et français langue seconde. On y offre plusieurs exercices et ressources. ccdmd.qc.ca. Le projet Voltaire, pour améliorer son français écrit, peu importe son niveau. Sa chaîne YouTube contient plusieurs excellentes vidéos sur la langue. projet-voltaire.fr. De bons outils. Un super correcteur. Antidote Plus est un logiciel québécois qui remplace grammaire, dictionnaire et conjugueur, en plus de nous aider à dépister les erreurs dans nos textes et courriels. S'utilise sur l'ordinateur, la tablette et le téléphone intelligent. Antidote.info. Un clavier plus confortable. Taper nous donne mal au poignet? Le clavier sans fil ergonomique Logitech Ergo K860 est arrondi avec un repose-poignet en mousse pour que les mains s'y posent plus naturellement. Logitech, logitech.com. Mon coach Becherel, oui, comme la grammaire, propose 5000 exercices dans notre téléphone intelligent pour améliorer notre français de façon personnalisée. Becherel, becherelle.com. C'était « Je veux écrire sans faute », un texte de Pascal Forget, paru dans Bel Âge.
Des informations en ligne, 6 questions à se poser, un texte de Jessica Dosti, paru dans Bel Âge. Devant la quantité d'articles en tout genre qui circulent sur Internet, on a parfois du mal à faire la part des choses. Ça a parfois l'air intimidant, mais c'est moins compliqué que d'apprendre à conduire une voiture, assure Stéphanie Jolicoeur, vulgarisatrice scientifique et conférencière. Comment démêler le vrai du faux? L'experte propose quelques questions qui peuvent nous aider à déterminer si un texte partagé sur Facebook, par exemple, est fiable ou pas. 1. Connaît-on la source du texte? Stéphanie Jolicoeur conseille d'abord de scruter la source de l'article. Le texte en question est-il publié par un média connu? Ou s'il se trouve sur un site obscur? Ici, la prudence s'impose, puisque certains sites satiriques s'amusent à nous confondre en imitant la signature de médias populaires. Qui signe l'article? Autre indice de taille, le nom de l'auteur. S'il s'agit d'un article anonyme et qu'on ne peut contacter ni le journaliste ni la salle de rédaction du média, on se méfie, dit l'éducatrice scientifique. On doit aussi faire la différence entre une chronique d'opinion, dans laquelle le jupon de l'auteur dépassera assurément, et un article d'information interrogeant plusieurs sources. 3. Si l'auteur cite certaines données, d'où proviennent-elles? On devrait aussi valider la source des données mentionnées dans le texte. De quel organisme provient-elles? Sont-elles tirées d'une étude scientifique récente? Ou datent-elles de longtemps? De même, on peut aussi s'interroger sur la provenance des images utilisées pour illustrer un texte. 4. Quelle est l'expertise des spécialistes interviewés? Dans certains articles, l'auteur donne la parole à des experts. Qui sont-ils? Pour le savoir, Stéphanie Jolicoeur propose de fureter sur Google. Est-ce que ce sont des scientifiques réputés ou des personnes qu'on ne connaît pas trop? 5. Quelle est la date de parution du texte? Ce n'est pas parce qu'un article coche toutes les cases ci-dessus qu'on doit pour autant s'y fier. La date de publication compte également pour beaucoup, soutient la vulgarisatrice. Parfois, sans s'en rendre compte, on lit quelque chose qui date de 2014. Ce qui était vrai à ce moment-là a peut-être changé aujourd'hui, donne-t-elle en exemple. Pas de date? Ça ne veut pas nécessairement dire que l'article est rempli de fausseté, mais on redouble tout de même de vigilance. 6. Qu'en disent les autres médias? On ne devrait pas se limiter à une seule source si on veut approfondir un sujet, affirme Stéphanie Jolicoeur. Si on veut être certain de bien se renseigner, on peut recouper l'information, c'est-à-dire vérifier si d'autres médias affirment la même chose. Des formations. Améliorer sa littératie numérique, ça s'apprend. De nombreux organismes offrent des formations sur le sujet, à commencer par la Grande Bibliothèque, qui offre des ateliers gratuits, notamment dans le cadre de la série « Savoir-faire numérique ». C'était « Des informations en ligne, 6 questions à se poser », un texte de Jessica Dosti, paru dans « Bel âge ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Jocelyne Langevin, Hélène Lamarche à la lecture, Anne Hébert et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.